L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 4h30 du matin, ce 16 octobre 1793. Marie-Antoinette, ex-reine de France, rédige sa lettre d'adieu depuis son cachot de la conciergerie. Dans 7h45, Samson l'attendra place de la Révolution à Paris. Elle est condamnée à mort. Ce sont ses dernières heures, la fin d'une histoire tragique qui met en scène une jeune femme espiègle, fraîche et surtout innocente. Ce 16 octobre, à 4h30 du matin, c'est à vous, ma sœur, que j'écris pour la dernière fois. Je viens d'être condamné non pas à une mort honteuse, elle ne l'est que pour les criminels, mais à aller rejoindre votre frère, comme lui, innocente. J'espère montrer la même fermeté que lui dans ses derniers moments. Je suis calme, comme on l'est quand la conscience ne reproche rien. C'est comme cela que commence sa missive à la sœur de son défunt mari, le roi Louis XVI. Il a été exécuté il y a déjà 9 mois, le 21 janvier 1793. Ils auront connu tous deux un temps bien maussade pour leurs derniers jours. L'un a dû traverser la froidure de l'hiver pour se rendre à l'échafaud et Marie-Antoinette, elle, a les pieds glacés au fond de sa cellule. Le temps est morose. C'est une nuit d'automne ordinaire. Le ciel est couvert et l'air humide accompagne la tristesse qui envahit la veuve Capet. Elle se souvient avoir été cette jeune fille frétillante promise à devenir la future reine de France. Quand elle l'est devenue, elle n'avait que 18 ans et son mari, lui, en avait 19. Elle vient d'une famille autrichienne, la 15e d'une grande fratrie. Sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, et son père, François Ier, étaient à l'apogée de leur gloire. Un enfant de plus ou de moins, vous pensez, ça leur était égal. En plus, Marie-Thérèse n'était pas une mère très aimante et démonstrative, pas comme Marie-Antoinette l'est aujourd'hui avec ses enfants. J'ai un profond regret, écrit-elle, en cette nuit des plus sombres. C'est d'abandonner mes pauvres enfants. Vous savez que je n'existais que pour eux et vous, ma bonne et tendre sœur. C'est comme ça. Marie-Antoinette vivait pour ses enfants alors que sa mère n'avait Dieu que pour son mari, François. Marie-Thérèse ne se remettra d'ailleurs pas de la mort de son époux. Et ses jeunes enfants deviendront son bouc émissaire. Marie-Antoinette n'avait pas le statut d'enfant. Elle n'était que l'une des pièces sur l'échiquier politique, mais puisqu'elle faisait partie du jeu, autant qu'elle soit la reine. Sa mère était distante avec elle. Elle disait même qu'elle la mettait mal à l'aise pour ne pas dire qu'elle lui faisait peur. Avoir peur de sa propre mère. Mais bon, le devoir avant tout. À 14 ans, elle s'est retrouvée fiancée au dauphin français pour marquer la réconciliation entre l'Autriche et la France. Marie-Antoinette n'a pas répété ce qu'elle a connu. C'était une reine maman. À son arrivée à la cour, elle avait abandonné sa frivolité et son espièglerie au profit de son rôle de mère. Depuis son cachot, elle se souvient des premiers pas de ses enfants. Elle était tendre, jouait à Colin Maillard dans les jardins. Oh, et peu importe ce que pensaient les dames de la cour, elle était une mère aimante. Elle leur apprenait à lire parce qu'elle aime La Fontaine, Voltaire, Rousseau. Dans les récits de ce dernier, c'est son rapport à la nature qui l'a séduit. Elle a fait découvrir à ses enfants la vie à la campagne au hameau. Ils nourrissaient les chèvres ensemble. Elle aimait pêcher et faire du cheval. Elle se rend sans doute compte, à quelques heures de sa mort, que cette vie, même si elle se voulait pleine de valeur, restait loin de la réalité des campagnes françaises à l'époque. Elle le sait. Cette vie de paysanne bourgeoise a été perçue comme une provocation. une insulte à ceux qui se tuaient à la tâche pour une croûte de pain alors qu'elle mangeait de la brioche à Versailles. Avant de se retrouver à la conciergerie où elle attend désormais sa peine, elle était incarcérée avec ses enfants et Louis XVI à la prison du Temple. Ironiquement, c'était en prison qu'ils avaient tissé leur lien familial. Elle ne s'était jamais sentie très proche de son mari, pour lequel elle éprouvait une certaine pitié, tant ils étaient différents. Elle aimait les sorties, le jeu et la musique, et lui était plutôt réservé. Mais lorsque la famille royale était enfin enfermée au Temple, le roi joua un rôle important dans l'éducation des enfants, et elle s'est rendue compte qu'elle était passée à côté d'un homme charmant, érudit. Il y a 2 mois de cela, elle pouvait encore voir ses enfants. Maintenant, Marie-Antoinette était seule, séparée de son fils depuis un moment, mais en quittant la prison, la reine a dû quitter sa fille. Alors que celle-ci atteindra l'âge adulte, son fils, lui, ne survivra pas à sa tendre mère. Marie-Antoinette, entre ses 4 murs, ne le sait pas encore, mais Louis-Charles décédera moins de 2 ans plus tard. Mais là, tout de suite, son espoir ne réside qu'en eux. Son destin est scellé. Mais pour ses enfants, elle veut le meilleur. À l'aube de la journée sombre qui l'attend, elle ne pense qu'à leur bonheur. Elle poursuit sa lettre. Elle écrit ceci. « J'espère qu'un jour, lorsqu'ils seront plus grands, ils pourront se réunir avec vous et jouir en entier de vos tendres soins. Qu'ils pensent tous deux à ce que je n'ai cessé de leur inspirer. Que les principes et l'exécution exacte de ces devoirs sont la première base de la vie. Que leur amitié et leur confiance mutuelle en feront le bonheur. » Avant d'être mère et d'avoir pleinement conscience de son rôle, il faut bien dire que de nombreuses années s'étaient écoulées. Il a fallu 8 ans avant que la cour ne connaisse le nom de son héritier. Marie-Antoinette a été jetée adolescente dans un système protocolaire rigide alors qu'elle n'avait jamais reçu une éducation comme celle-là. Elle ne parlait même pas français. Le devoir, c'était pourtant ce qu'on attendait d'elle. Quand elle est arrivée à Versailles, il fallait qu'elle incarne le visage de la cour. Lors de sa grande entrée, elle était pourtant populaire. On voulait ce visage de porcelaine, celui qui allait être un renouveau et un vent de jeunesse au château. Mais bien vite, il a fallu qu'elle respecte les horaires, qu'elle ne dépasse aucune limite. Son chemin était pavé d'interdictions, de règles et de traditions. On voulait une reine jeune, mais pas une reine moderne qui allait venir chambouler le système de la cour. Dans sa cellule, les minutes sont longues avant l'exécution. L'ex-reine est isolée des autres détenus. 2 gendarmes veillent jour et nuit depuis 2 mois. La pièce est divisée en 2 par un paravent à mi-hauteur. D'un côté, on trouve la prisonnière et de l'autre sont les gardes qui ne peuvent pas la quitter des yeux. Elle avait pourtant réussi à s'évader une fois, mais elle avait été ramenée au cachot. Les gardes ne peuvent pas être achetés. Elle est seule, angoissée, sans espoir. Elle, qui a toujours détesté la solitude, se sent terriblement abandonnée. Depuis toujours, c'est une femme stressée qui doit prendre des calmants. Mais ce qu'elle vit à quelques instants de sa mort n'a rien de comparable. L'anxiété qui est montée crescendo depuis le début de la Révolution en 1789 atteint son apogée. Elle a la figure pâle, les traits tirés. En plus de cela, elle est malade, d'angoisse. On dit même que ses cheveux ont blanchi en une nuit. Celle précédant sa montée sur l'échafaud. À 38 ans, Marie-Antoinette ressemble à une vieille dame dans sa cellule sordide. Elle, qui était pourtant l'icône du XVIIIe siècle, se retrouve dénudée, sans perruque et sans poudre sur le visage. Quand elle est arrivée 20aine d'années plus tôt à Versailles, elle avait mis un point d'honneur à la mode et à l'art. Elle ne s'intéressait pas aux couturières de la cour qui voulaient lui faire des robes sur mesure dans la lignée de la dynastie telle qu'on la connaît, préférant la modernité. Elle avait d'ailleurs fait jaser en se rapprochant de Mademoiselle Bertin, une marchande de mode. Les nobles à la cour se demandaient : « que raconte-t-elle à cette marchande de chiffons ? Quant à ses cheveux, Marie-Antoinette demandait au coiffeur Léonard de les changer tous les jours. Ses coiffures étaient aussi extravagantes que celui qui les fabriquait. Ses perruques ne passaient même pas les portes. Elle avait littéralement bouleversé, sans pincette, même les symboles figuratifs de la monarchie.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H d'une reine qui, dans sa chute, s'est révélée. Marie-Antoinette, à quelques heures de son exécution sur la place publique, a tout perdu, sauf la ténacité. Au fond de sa cellule, à la conciergerie, alors qu'elle écrit sa lettre d'adieu, on la sent forte. Au début de son règne, elle avait tout. L'or, les bijoux, le linge que toute femme de son époque pouvait envier. Elle se retrouve désormais sans rien. Par contre, spirituellement, Marie-Antoinette a connu une élévation égale à celle de son ascension sur le trône. Maintenant captive et inquiète, elle fait preuve d'une lucidité et d'une grande force morale. Cette nuit, il ne lui reste rien, juste des souvenirs. Il en vit que ses enfants apprennent de ses erreurs, mais aussi qu'ils se centrent sur une notion tellement chère à leur mère, celle de l'amitié. Elle écrit « Que ma fille sente qu'à l'âge qu'elle a, elle doit toujours aider son frère par les conseils que l'expérience qu'elle aura de plus que lui et son amitié pourront lui inspirer. Que mon fils, à son tour, rende à sa sœur tous les soins et les services que l'amitié peut inspirer. Qu'ils sentent enfin tous deux que, dans quelque position où ils pourront se trouver, ils ne seront vraiment heureux que par leur union. » Si Marie-Antoinette se sent si seule, c'est parce qu'elle ne l'a jamais vraiment été. Quand elle a franchi les grilles de Versailles, elle a pris par la main une ribambelle de favoris, ceux qu'elle appelle volontiers ses amis. Parmi eux, on compte Yolande de Polignac et la princesse de Lamballe. Marie-Antoinette leur a ouvert son cœur. La princesse de Lamballe la comprenait. Elle était du même rang et, à la mort de son mari, elle s'est dévouée entièrement à la reine. Ensemble, elles ont incarné le visage jeune de la cour. Elle se fichait des règles et des contraintes. C'est en riant qu'elle se baladait dans les jardins de Versailles. En hiver, elle faisait du traîneau et en été, elle sortait leurs ombrelles. Madame de Polignac est une autre de ses favorites. Elle a les yeux bleus, les cheveux bruns et son sourire angélique avait tout de suite séduit la reine. Elle était libre, oisive, et se disait paresseuse, sans en avoir à en rougir. Elle était la femme affranchie à travers laquelle Marie-Antoinette voulait vivre. Mais ses deux chers amis n'étaient plus à ses côtés. La tête de la princesse de Lamballe s'était retrouvée sur une pique brandie sous les fenêtres de Marie-Antoinette quand elle était à la prison du Temple. Elle ne l'avait pas vue, et pourtant, rien qu'à l'idée, elle avait tourné de l'œil. Elle s'était écroulée alors que son valet fermait les rideaux pour lui éviter la scène tragique. Madame de Lamballe tenait si fort à la reine que quand on lui avait demandé de jurer de haïr la famille royale pour sauver sa peau, elle avait dit que ça lui en serait impossible. Et Madame de Polignac, elle, avait fui la cour précipitamment avant que Marie-Antoinette ne soit arrêtée. À l'heure où Marie-Antoinette attend de quitter sa cellule pour être emmenée place de la Révolution, Madame de Polignac ne sait toujours pas que son amie va être exécutée. D'ailleurs, quand on lui annoncera sa mort, on ne lui parlera même pas de l'exécution pour éviter qu'elle ne sombre dans le chagrin. Mais elle mourra tout de même de langueur. Elle non plus ne survivra pas longtemps à la mort de sa chère et fidèle amie. Sur son épitaphe, on pourra lire « Morte de douleur ». Autant dire que Marie-Antoinette tenait autant à ses proches qu'il ne tenait à elle. À ses enfants, dans ses écrits, elle leur souhaite de le comprendre et de le vivre. Qu'ils prennent exemple de nous. Combien dans nos malheurs, notre amitié nous a donné de consolation. Et dans le bonheur, on jouit doublement quand on peut le partager avec un ami. Et où en trouver de plus tendre, de plus cher que dans sa propre famille? Le problème, c'est qu'à trop vouloir miser sur le loisir, on lui reproche cette nuit d'en avoir oublié ses devoirs. Depuis quelques années, les attaques à son encontre se multiplient. On lui reproche son mode de vie, ses folies, ses excès. Le peuple affamé dit d'elle qu'elle est une mauvaise femme, une mauvaise mère et une mauvaise reine. Son amour pour le jeu y a grandement contribué. Louis XVI la savait malheureuse, culpabilisée et voulait lui faire plaisir en la laissant se divertir. Et en cédant à sa femme, il l'a laissée courir à la catastrophe. Marie-Antoinette était joueuse. Ses parties de cartes à Versailles l'avaient endettée. Elle devait parfois rembourser des sommes qui s'élevaient à deux fois la dotation qu'elle recevait par an. Le jeu lui faisait même parfois oublier ses devoirs religieux. Elle avait par exemple raté la messe de la Toussaint. Bref, vous vous en doutez. Elle est vivement critiquée et elle ne fait pas bonne figure à la cour et encore moins à l'extérieur. Les temps sont durs. Le peuple peine à se nourrir et à nourrir ses enfants. Et à l'inverse, à Versailles, on jetait l'argent par les fenêtres pour pouvoir s'amuser pendant que d'autres mouraient de faim. Des dizaines de caricatures mettant en scène le roi et la reine tournent en France. Les fervents de la Révolution ont détruit dans l'opinion publique la figure de la reine. Son image est souillée, ainsi que celle de son entourage. Le roi est déjà mort et les personnes qui lui étaient chères ont été assassinées aussi. La reine et le roi ne s'étaient jamais réellement entendus. Il avait fallu attendre avant qu'elle ne donne naissance à son premier enfant, on l'a dit. La fertilité de la reine avait été mise en doute. Déjà, au début de son règne, des rumeurs couraient. Jusqu'alors, rien d'étrange, me direz-vous. Les potins des cours ont toujours fait jaser. On suspectait que le premier-né ne soit pas le fils du roi. À l'époque, on ne se souciait pas de la vérité. Les libelles rapportaient bien plus quand elles débordaient de ragots. Marie-Antoinette est alors devenue la cible de rumeurs calomnieuses qui n'ont fait que se multiplier jusqu'à ce qu'elle se retrouve en prison, puis dans sa cellule, à la conciergerie. Le pays se dirigeait dangereusement vers une faillite certaine. Mais la reine, elle, jouait, habitait dans le petit Trianon que Louis XVI lui avait offert, encore de l'argent jeté par les fenêtres. À côté de cela, elle devait payer sa couturière, ses robes, son coiffeur et les meubles pour ses appartements privés. Elle était considérée comme une reine dépensière, dilapidant l'argent de la France. Et puisque la couronne dépensait sans compter, Marie-Antoinette avait été surnommée « Madame Déficit ». Non, la reine se trouvait pourtant généreuse. Elle donnait à œuvres de charité et s'engageait dans des œuvres philanthropiques. Mais le peuple n'en avait que faire. Elle était dans sa ligne de mire. Et le coup de grâce, l'ultime, celui qui l'a sans doute poussée à l'échafaud, c'est l'affaire du collier de diamants. Ce fameux collier, d'une valeur inestimable. Des escrocs avaient imité sa signature pour acheter les diamants. Elle n'est pas coupable de cela, mais, comme d'habitude, les rumeurs ont couru plus vite qu'elle. Elle s'est fait scruter. On a exagéré ses dépenses et elle a tenté de redorer son image, mais en vain. Déjà méprisée par tous depuis longtemps, elle ne se montrait plus en public. Ce qui a fait qu'elle paraissait encore plus froide et distante. Elle a dévalé avec toute la monarchie française dans les enfers à une vitesse VV prime. Malgré cela, Marie-Antoinette n'est pas rancunière. De sa plume, elle note « Que mon fils n'oublie jamais les derniers mots de son père, que je lui répète expressément, qu'il ne cherche jamais à venger notre mort. » En ce petit matin, elle accepte son sort. Un retour en arrière n'est pas possible. Blottie au fond de sa cellule sordide à l'odeur fétide. Cette odeur est telle qu'elle est obligée de laisser sa fenêtre ouverte si elle ne veut pas mourir étouffée. Elle a vu de son cachot sur la cour des femmes. Au moins, quand elle écrit sa lettre en pleine nuit, il fait calme. Parce que de 8h du matin à 20h, un brouhaha sourd l'empêche de se concentrer. De plus, elle souffre de douleurs atroces au ventre et perd du sang. Elle est à bout de force, physiquement, mais aussi mentalement. Elle est probablement atteinte d'un cancer de l'utérus. Il ne lui reste sans doute que quelques mois à vivre. Mais les acteurs de la Révolution veulent sa tête. Son médecin a même pour mission de la faire tenir impérativement jusqu'à sa condamnation. Cette nuit-ci, elle n'en peut plus. Peut-être préférerait-elle que l'on abrège ses souffrances. Elle n'est plus l'ombre d'elle-même, elle le sait. 3 jours auparavant, devant les juges, on lui a demandé « Déclinez votre identité ». Elle leur avait répondu « J'étais Marie-Antoinette d'Autriche ». À la fin de son jugement, il y a de cela quelques minutes, avant qu'elle se mette à écrire, Marie-Antoinette avait été ramenée au cachot. Le lieutenant de Busne lui tenait le bras pour descendre l'escalier sombre de la prison et les marches du préau, qui étaient glissantes. Elle venait d'entendre la sentence, celle de la peine capitale. Dans sa lettre d'adieu, elle s'excuse. « Je demande sincèrement pardon à Dieu de toutes les fautes que j'ai pu commettre depuis que j'existe. J'espère que dans sa bonté, il voudra bien recevoir mes derniers vœux, ainsi que ceux que je fais depuis longtemps, pour qu'il veuille bien recevoir mon âme dans sa miséricorde et sa bonté. Je demande pardon à tous ceux que je connais, et à vous, ma sœur en particulier, de toutes les peines que, sans le vouloir, j'aurais pu vous causer. » Marie-Antoinette se rend compte de ses excès. Elle a mûri. Elle n'est plus la jeune fille farouche qu'elle était quand elle est arrivée à Versailles pour la première fois. Elle se montre courageuse, fière. Elle s'est accrochée jusqu'au bout, s'est défendue. Elle avait eu confiance en une issue favorable pour ce procès. Un procès qui n'aura duré que 2 jours. Alors, il y a 2 jours encore, elle pensait s'en sortir vivante. Lorsqu'elle s'est rendue devant les juges, ils l'avaient en fait déjà jugée. Rien n'aurait pu venir renverser la vapeur. Elle avait de toute façon déjà tout tenté. Redorer son image en se faisant peindre avec ses enfants pour qu'elle soit montrée en mère aimante ou encore fuyant. Mais sa berline jaune avait été interceptée à Varennes quand on a reconnu le roi malgré leur déguisement. Cette fuite avait été organisée par le comte Axel de Fersen, l'un de ses favoris. Nous avons parlé des favorites de la reine, mais elle était aussi connue pour ses accointances avec d'autres hommes que son mari. Dans son petit Trianon où elle vivait cachée, elle jouait de la musique. Elle y rencontrait ses amis. Les rumeurs disent qu'il s'agissait de ses amants, mais rien ni personne ne pourra le prouver. Elle côtoyait des hommes grands, puissants, aux allures viriles et qui pouvaient la rassurer. L'un venait discuter, l'autre l'emmenait en balade à cheval et d'autres allaient avec elle au théâtre. Mais Marie-Antoinette n'avait jamais aimé les jeux de séduction. Elle n'était jamais trop familière avec les hommes. Elle se contemplait simplement en eux pour se sentir belle, féminine, intéressante. Elle avait fait parler, jalousée même, tous les autres hommes qui n'avaient pas été choisis pour l'entourer. On lui reprochait d'être encerclée d'oisifs. Mais de ces oisifs, un seul homme sortait du lot. Le comte Axel de Fersen, le Suédois. Celui avec qui elle aurait entretenu une romance à Trianon. Cette nuit, Marie-Antoinette y pense sans doute aussi. Ils étaient si proches que quand ils ont tenté de fuir, le roi, lui-même, l'avait chargé d'organiser cette évasion en 1791. Il aurait tout fait pour elle, au risque de sa vie. Fersen sait qu'il ne va pas s'en remettre si on lui enlève sa reine de cœur. On dit de lui qu'il est le plus fidèle parmi les fidèles de Marie-Antoinette. Quand elle mourra, il dira « J'ai maintenant perdu tout ce que j'avais au monde. Elle, que j'aimais tant, pour qui j'aurais donné 1000 fois ma vie, n'existe plus. » Marie-Antoinette a fini d'écrire. Elle termine sa lettre en pardonnant à ses détracteurs et en faisant ses adieux aux gens qui lui sont chers, sa famille et ses amis. « Je pardonne à tous mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait. Je dis ici adieu à mes tantes et à tous mes frères et sœurs. J'avais des amis. L'idée d'en être séparés pour jamais et leurs peines sont un des plus grands regrets que j'emporte en mourant. Qu'ils sachent du moins que jusqu'à mon dernier moment, j'ai pensé à eux. Une chose est sûre, Marie-Antoinette était reconnaissante. Sa force mentale est sans doute ce qui la caractérise, même à quelques heures de rencontrer son destin tragique.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, je vous raconte l'heure H de Marie-Antoinette d'Autriche, désormais ex-reine de France. Il est 5 heures du matin, ce 16 octobre 1793. Elle vient de sceller sa lettre d'adieu adressée à la sœur de Louis XVI. Cette lettre ne parviendra jamais à Élisabeth, mais peu importe, rien. Rien ne peut désormais changer le destin de Marie-Antoinette. Les forces armées sont prêtes. Il faut sécuriser les ponts, les places, les carrefours entre la conciergerie, où est enfermée Marie-Antoinette, et la place de la Révolution. 7 heures du matin. Elle est étendue sur son lit et est encore vêtue de noir quand sa servante, Rosalie Lamorlière, vient lui demander si elle a un peu d'appétit. Un garde est assis dans le coin gauche de la pièce. Marie-Antoinette regarde par la fenêtre, la tête appuyée sur sa main. « Madame, vous n'avez rien pris hier au soir, et presque rien dans la journée. Que désirez-vous prendre ce matin ?» La reine ne s'arrête pas de pleurer, et elle lui répond en sanglotant. « Ma fille, je n'ai plus besoin de rien, tout est fini pour moi. » Rosalie a pourtant fait du bouillon. Marie-Antoinette accepte pour ne pas lui faire de peine. L'ex-reine n'arrive à boire que quelques cuillères. Elle est malade, elle se vide de son sang. Sans l'exécution, elle serait sans doute morte dans les semaines, voire les jours qui suivent. Il est 8 heures. Elle veut se changer. Pour éviter de provoquer la foule, elle ne peut pas être vêtue d'habits de deuil, ceux qu'elle porte depuis la mort de son mari, Louis XVI, qui a eu lieu 9 mois plus tôt. Elle sera donc en blanc pour l'occasion. C'est la couleur du deuil des reines. Elle choisit de porter le déshabillé qu'elle met le matin au-dessus de son jupon noir. Rosalie l'assiste. Marie-Antoinette se met dans la ruelle entre son lit et la muraille et abat sa robe. Elle change de linge une dernière fois. L'officier de gendarmerie se lève alors, s'approche pour venir voir. Il regarde la veuve se changer. Dans la précipitation, elle remet son fichu sur ses épaules et dit d'un calme olympien « Au nom de l'honnêteté, monsieur, permettez que je change de linge sans témoin. » Le jeune homme refuse. Il doit obéir aux ordres et ne pas la quitter des yeux. Il doit être témoin de tous ses mouvements pour éviter qu'elle ne s'échappe. Rosalie se place alors entre lui et sa majesté pour qu'elle puisse faire sa dernière toilette. La reine soupire. Enfile sa robe blanche du matin. Son foulard est croisé sous son menton. À son poignet, elle noue un ruban de faveur. Elle chiffonne sa chemise ensanglantée qu'elle portait et la fourre dans sa manche. Puis elle parvient à la cacher timidement dans un coin de la pièce. La veille, elle avait donné un petit peu de volume à ses cheveux puisqu'elle savait qu'elle allait apparaître publiquement. Elle porte un bonnet de linon bordé d'une petite garniture plissée. Elle lui ajoute 2 barbes volantes qu'elle gardait pour l'occasion. Sous ces 2 barbes de deuil, un crêpe noir est soigneusement ajusté. Sa coiffure de veuve lui va parfaitement. Elle enfile ses bas noirs, ses souliers couleur prune qui sont encore en très bon état. Elle avait pris soin de ses affaires et ne les avait pas abîmées à la conciergerie. Voilà, je suis prête. Prête pour aller à l'échafaud. Elle ne portera que son bonnet. Elle enlève les marques de deuil. À 9 h, on lui propose les ordres d'un prêtre jureur de Paris, mais elle refuse son ministère. Dans sa lettre, elle avait écrit qu'elle ne parlerait pas à un ecclésiastique qui avait prêté serment. « Madame, je suis l'abbé Girard, curé de Saint-Landry, dans la cité, et je suis venu vous offrir l'aide de mon ministère. » Marie-Antoinette lui répondit « Je vous remercie, je n'ai besoin de personne. » « Enfin, madame, que dira-t-on lorsqu'on saura que vous avez refusé les secours de la religion ?»« Eh bien, vous direz à ceux qui vous en parleront que Dieu y a pourvu dans sa miséricorde. » Elle veut se centrer elle-même sur ses devoirs spirituels. L'abbé va insister, mais Elle s'y oppose catégoriquement. Marie-Antoinette est grelottante, ses pieds sont toujours gelés. L'abbé la couvre avant de quitter la cellule. Elle se replonge dans ses pensées et regarde dans le vide. Il est 10 heures. Les juges arrivent et lisent à Marie-Antoinette sa sentence, comme si elle ne la connaissait pas déjà. Elle ne veut pas l'entendre, mais elle n'a pas le choix. Pour la deuxième fois, elle écoute le greffier déclamer des formules. Presque heureusement, Samson, son bourreau, fait une entrée fracassante dans la pièce. Il se montre courtois, mais on le rappelle à l'ordre. Elle ne veut pas lui tendre ses mains pour qu'il les lie. Il est obligé d'employer la force et d'attacher ses bras derrière son dos. Son bonnet, il s'en fiche. Elle a mis du temps à l'ajuster proprement, mais en une fraction de seconde, Samson lui retire. Il sort sa paire de ciseaux et taille à grands coups ses cheveux blancs. Il lui remet sans tact son bonnet avec ses grosses pattes. Ça y est, il est l'heure. Rosalie, la dernière servante de Marie-Antoinette, doit lui faire ses adieux, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Elle n'ose même pas lui faire une révérence. Ce serait affligeant. Elle se retire donc discrètement pour pleurer dans son cabinet et prier. Marie-Antoinette quitte sa cellule à son tour. Elle longe les murs de la conciergerie, monte les marches et là, stupeur, le carrosse qui l'attend. C'est une charrette abominable, tirée par un cheval de labour, celle qui sert à transporter les immondices. Le cortège funèbre est en route. Elle est assise entre son bourreau et l'abbé. Samson tient fermement la corde dure qui lie ses bras. Marie-Antoinette doit être forte, mais cela fait bien longtemps qu'elle fait l'apprentissage du courage. Elle ne risque pas d'en manquer aujourd'hui. Autour de la charrette, il y a un monde fou. Le trajet dure plus d'une heure. Le cortège sert à l'humilier une dernière fois. Mais la réaction du public est plutôt inattendue. C'est le calme plat. L'émotion plane. Seul un acteur sur son cheval scande des injures parce qu'il est sommé de le faire. Tout au long du chemin, les hommes marquent leur respect au fur et à mesure que la carriole avance. Ils baissent la tête et soulèvent leur chapeau. Le cheval s'arrête à midi, place de la Révolution. Marie-Antoinette descend précipitamment au pied de l'échafaud. Elle se dépêche de monter les marches avec la légèreté et l'élégance qui caractérisent une reine. Sans le vouloir, dans la précipitation, elle marche sur le pied de Samson. Elle s'excuse. Ce seront sans doute ses derniers mots. Il est midi et quart, le couteau de la guillotine tombe. Échec et mat, la reine est morte. Sa tête est montrée aux Français et on crie « Vive la République !» Mais c'est toujours le silence complet. 30 000 personnes se taisent. Jamais on ne lui avait rendu tant d'honneur. On se demande déjà si sa mise à mort en valait réellement la peine. Marie-Antoinette est guillotinée. Son supplice est terminé, ou presque. Son corps est d'abord chargé dans une vulgaire brouette par les bourreaux. Rien n'a été préparé pour elle. Ni une tombe, ni même une fosse. Elle est déposée dans l'herbe, à la Madeleine, la tête entre les jambes. Elle sera placée dans la même fosse que son mari, avec de la chaux pour accélérer la décomposition des corps plus tard, parce qu'avant cela, c'est l'heure de manger pour les bourreaux. Malgré cette envie d'humiliation de la part des révolutionnaires, Marie-Antoinette est morte en héroïne. Depuis son arrivée à Versailles, jusqu'aujourd'hui en 2022, un culte entoure cette reine de France. On pourrait penser qu'on essaye de se racheter d'avoir tant méprisé et stigmatisé une jeune fille innocente. Quand elle est arrivée à Versailles, elle n'avait que 14 ans. Et 4 ans plus tard, il lui avait été demandé d'incarner à elle seule l'image d'un pays et d'en avoir l'entière responsabilité. Son sort se lie alors étroitement à celui de la France. Si le royaume sombre, c'est elle qui sombre. Son héritage est celui d'une femme au destin tragique. Elle, qui était toujours entourée, mais qui se sentait toujours seule, a fini dans une solitude extrême. C'est un concours de circonstances qui l'a menée ce 16 octobre 1793 à l'échafaud. On peut même dire qu'elle a été victime de son époque. Elle s'est transformée en bouc émissaire de la monarchie. Les rumeurs colportées à son sujet sont venues ternir l'image d'une reine qui voulait simplement être libre. Elle est venue avec une désinvolture charmante, bouleverser un système ancré dans la tradition française depuis des siècles. Mais qu'importe les ragots, elle était une femme émancipée, en avance sur son temps, par son charisme. L'ancienne souveraine de France ne s'est pas fait connaître sous le nom de « la femme d'eux ». Elle a presque réussi à faire oublier le nom de son mari. Et de la Révolution, finalement, on ne retient qu'elle. « Adieu, adieu », avait-elle écrit dans sa lettre avant de mourir. Il n'en est rien. Dans tous les esprits, la reine Marie-Antoinette d'Autriche reste bel et bien vivante. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume d'Emma Verset.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.